Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de Trek in Storia. Avant toute chose, je voulais vous faire un disclaimer de deux points. Un, on a eu un petit problème technique durant l'enregistrement. Petit problème technique qui a fait qu'on a l'impression que vous commenciez l'épisode en plein milieu. C'est pas le cas. Et deuxième petit problème technique, ma piste à moi sature. On est en train d'y remédier. On a amélioré le son pour améliorer l'écoute du podcast. Néanmoins, ce n'est pas parfait et on préférait vous avertir. Bref, si vous aimez nous suivre, n'hésitez pas donc à liker, commenter, vous abonner, partager et puis à nous dire via des retours qu'est-ce qu'on pourrait faire pour améliorer la qualité du son. Voilà, je vous remercie et à bientôt.
Donc on reprend, de quoi va-t-on parler surtout ?
Alors ce soir on va parler du meilleur des deux mondes, un épisode qui est culte pour les Trekkies, qui est un épisode de Star Trek La Nouvelle Génération, fin de la saison 34, un épisode en deux parties, et on s'était posé la question, est-ce qu'il n'était pas surfait ?
Oui, tu avais amené cette question-là. Et je termine juste un petit truc. Et ma première question, c'est que du coup, moi je l'ai revu aujourd'hui, toi tu l'as revu hier. Ma première question, c'est pourquoi te poses-tu cette question ? Pourquoi demandes-tu, est-ce que le meilleur des deux mondes n'est pas surfait, n'est pas surévalué ?
Alors, autant je connais la valeur intrinsèque dans l'univers de Star Trek, on en parlera tout à l'heure, mais. Qu'est-ce que représente cet épisode dans l'univers de Star Trek ? C'est un épisode pivot qui fait rentrer Star Trek dans une sorte de maturité qui était nécessaire pour son évolution et sa survie. Autant en le re-regardant il n'y a pas très longtemps, je me suis dit, il est quand même bourré d'incohérences, il est quand même bourré de choses qui ne vont pas. Et en faisant des recherches, effectivement, donc on en parlera aussi un peu tout à l'heure, et aussi sur le fait que TNG, ça commence à avoir plus de 30 ans et c'est quand même vachement daté, quoi. Et de s'appuyer là-dessus, que ce soit Picard qui s'appuie là-dessus ou pas mal d'autres séries maintenant qui s'appuient sur ce modèle-là d'épisode, je me demande si ça va pas finir par tuer la franchise.
Qu'est-ce que tu entends par « il s'appuie sur ce modèle-là d'épisode » ?
Eh ben, c'est des épisodes qui sont, à la différence de TOS, beaucoup moins violents, les épisodes... qui se veulent avec une résolution pacifique à chaque fois. Et cet épisode-là veut marquer un schisme dans l'univers de Star Trek en introduisant un méchant invincible et presque impossible à vaincre. Et il y a quand même une résolution presque pacifiste à la fin de cet épisode. Et on s'aperçoit qu'en fait, dans Star Trek, ils ont ce côté un peu shonen... Shonen du pauvre, c'est-à-dire que finalement l'ennemi est toujours battable et que l'ennemi d'aujourd'hui est l'allié de demain. Avec les Borg notamment dans Voyager, ou qu'on peut voir après dans Picard où il y a des Borg un peu partout maintenant.
D'accord. Et ça te dérange ?
Oh, ça me dérange, ça m'empêche pas de dormir, hein. Mais je trouve que c'est quelque chose qui était une force de la franchise et qui devient un de ses points faibles.
Ok, et est-ce que ça te dérange parce que tu es un DS9ien ?
Non, ça me dérange pas parce que je suis un DS9ien, parce que sans cet épisode, il n'y a pas DS9.
D'accord. Je pose bien une question. Hein. Moi, je l'ai vu, et pour ma part, j'ai le regard du profane. Donc, j'ai découvert l'épisode, je crois qu'il y a 2 ans, quand je me faisais la série. Là, je me la suis refaite, donc c'était vraiment avec ma lecture très contemporaine de Picard, de TNG et de Star Trek. C'est-à-dire, je l'ai déjà dit, j'aime pas Picard, je trouve que c'est pas un gars. Je ne le trouve pas, je trouve que ce n'est pas un personnage agréable. Je n'aime pas. Du coup, j'ai vu cet épisode sans même avoir accès à son statut culte, à savoir que c'était un statut culte. Il y a un truc. C'était quand je parlais de Picard, notamment à des personnes dont je ne citerai pas le nom avec un book et des sourcils marqués. C'était toujours, oui, mais attends, juste après le premier épisode de la saison 4, il y a après le meilleur des deux mondes, tu vas voir, c'est incroyable, il change, nanani, nanana. Et donc c'est comme ça que j'avais accès au meilleur des deux mondes. Pour le reste, c'était pas plus. Donc voilà, donc on va reprendre un peu vite fait l'histoire. Déjà ce que je... Alors, je termine avec ça. Que par rapport à toi, par exemple, toi, t'es plutôt le vétéran du Vietnam qui a découvert l'épisode, il est arrivé, vous vous parliez en morse sur le pré-internet pour raconter cet épisode. Enfin, on était à cette époque-là. Voilà, donc moi j'arrive après la guerre et je contemple la stèle, quoi.
The Wolf 359.
Voilà. Même ça, je la comprends pas, tu
Ah, parce que la bataille, c'est la bataille de Wolf 359.
vois.
La
Ok.
bataille quand le Cuborg défonce tous les vaisseaux de la Fédération, c'est Wolf 359. Et pour ceux qui jouent à Star Trek Online, il y a vraiment une stèle dans ce secteur galactique.
Voilà.
Voilà.
C'est exactement ce que je disais. Vétéran de la première guerre, quoi.
Tout à fait. Non, bah alors. Comment dire, c'est pas tant que je crois que je l'ai découvert assez tard aussi cet épisode parce que je comprenais pas le début de DS9. Alors, je rappelle encore une fois, en France on découvrait Star Trek via des cassettes qu'on louait au Vidéo Club, et donc DS9 était monté sous forme de téléfilm, l'épisode pilote en deux parties sous forme de téléfilm, et il y avait une intro qui vous expliquait bah, cette bataille de Wolf 359. Et donc du coup, un jour, on a pu... Ben, quand le film First Contact est arrivé, qu'on avait raté un truc, et on avait pu mettre la main sur la série TNG, et on avait compris qu'il avait eu été un Borg pendant un temps. Bah, l'épisode en lui-même est très intéressant sur plein de points de vue. Pour raconter l'histoire très simplement, à cause de Q, l'humanité et Picard savent que les Borg existent. Et les Borg savent que l'humanité existe. Et du coup, Starfleet se prépare à une rencontre ou une guerre avec les Borg. Et ils ont notamment un lieutenant-commandeur qui s'appelle Shelby, qui devient une spécialiste des Borg et qui a commencé à initier tout un tas de protocoles de défense contre les Borg. Notamment, on peut imaginer que elle fait partie de l'escouade qui va mettre en place le Défiant, le fameux vaisseau de DS9 qui a été fait pour lutter contre les Borg, le premier vaisseau de guerre de la Fédération. Et c'est un épisode avec à tiroir presque, avec plein d'intrigues. Étant donné qu'on a cette Shelby qui est très très ambitieuse et qui veut prendre la place de Riker, et on apprend aussi que Riker refuse systématiquement toute promotion pour être capitaine sur un navire parce que il ne veut servir que sur l'Enterprise et il est fidèle au capitaine Picard. Donc Picard apprend un peu tout ça d'ailleurs, il ne savait pas que Riker refusait à chaque fois des promotions. Qu'est-ce qu'on apprend d'autre dans l'histoire? Ben, on a des colonies de la Fédération au niveau de la zone neutre qui sont régulièrement attaquées par les Borg et carrément assimilées. Donc des colonies entières ont disparu. Et c'est pour ça que l'amirauté envoie notamment Shelby aider l'équipage de l'Enterprise à se préparer avec une rencontre avec les Borg. Et en fait, c'est un épisode assez intéressant. Et avec les recherches que j'ai vues, que j'ai pu faire, j'ai vu un nouvel épisode en fait. C'est un épisode qui en fait est centré sur Riker. Paradoxalement, c'est un épisode qui est centré sur Riker, sur le fait qu'il a affaire à quelqu'un jeune, très ambitieux. Donc il voit un reflet là-dedans. Et puis à une histoire de changement. Est-ce que Riker va partir? Est-ce qu'il veut partir? Bah, c'est toute l'histoire. Et est-ce que cette nouvelle ennemie va changer la donne dans la Fédération? À savoir l'arrivée des Borg. La deuxième partie, enfin, l'épisode se termine par une confrontation avec les Borg. Les étant mal préparés finalement, bah, se fait un peu poutrer la gueule. Et Picard se fait enlever, attention zone spoil, et il se fait assimiler et devient Locutus de Borg. Riker se retrouve donc de par défaut capitaine de l'Enterprise. Il nomme le commandant Shelby commandant second parce que c'est sa seule experte des Borg. Et ils s'aperçoivent que donc Locutus de Borg a une trajectoire pour aller envahir la Terre. Donc il faut que toute la flotte intercepte ce seul vaisseau Borg, ce cube. Une partie de la flotte s'est ramassée à Wolf 359. rousses du siècle, parce que les Borg, en plus d'avoir assimilé un brillant Star Trek, je vais y arriver, assimile aussi un capitaine qui est au courant de l'ensemble des tactiques de défense, des codes, de pas mal de choses. Donc forcément, ils se prennent une raclée monumentale. L'équipe de l'Enterprise arrive un petit peu après la bataille et décide qu'il faut quand même sauver le capitaine. C'est un sauvetage. Et Crusher et Data élaborent un système pour déborgiser l'Occultus de Borg. Ça marche pas très bien. Ils arrivent à l'enlever et ça marche pas très bien. Et c'est carrément Picard qui, en tant que l'Occultus, arrive à retrouver un peu de Picard en lui et donne une information à Data qui lui arrête pas de lui répéter dormir, dormir, dormir. Et Data comprend qu'il peut mettre en sommeil le cube Borg et de par le... Voilà, le rendant sans défense est inopérant et l'épisode se finit par un Picard qui est encore marqué par ses cicatrices d'amputation et de manipulation des Borg et qui essaye de reprendre un cours normal dans sa vie. Voilà. Les Borg ont été arrêtés, la menace de l'Occultus n'est plus là et c'est une grosse déception parce que du coup le reste, l'épisode qui suit fait voir que Picard souffre de stress post-traumatique et puis après on n'en parle plus. Ouais. C'est-à-dire que jusqu'au film First Contact, on ne parle plus de ce trauma qu'a subi Picard, de tout ce qu'on nous a balancé aussi comme info sur les Borg, à savoir finalement les Borg ont besoin d'un Locutus, d'un gars qui va parler, hein, Locutus ça veut dire parler en latin. Pourquoi est-ce qu'ils ont besoin d'un émissaire? Bon, il y a une ou deux explications dans l'épisode, mais on ne savait pas qu'ils avaient besoin d'émissaires pour assimiler des peuples.
Ils en prenaient. C'était dans leur logique culturelle de façonner des émissaires.
Voilà, il y a plein de trucs comme ça qu'on nous apprend dans l'épisode, notamment le lien de Guinan, on le savait déjà avec les Borg, on l'étudie encore un peu plus. Le fait que les Borg soient limite invincibles, bon, ça serait très vite oublié après, quoi. Donc encore une fois, c'est un peu le syndrome Star Trek. Des très bonnes idées au début, et puis qui ne sont pas exploitées par la suite, quoi. Ouais. On voit les bébés aussi, c'est les premières fois qu'on voit des bébés Borg. On va attendre jusqu'à Voyager pour qu'on nous ressorte le concept des bébés. Ou voir le Lower Deck qui a fait des blagues là-dessus. Et puis, comme d'hab, plein d'infos dans un épisode construit de façon assez bizarre, très dense sur la première partie et très léger sur la deuxième. Ouais. Je vous expliquerai après pourquoi. Et puis, pareil, pas forcément de conclusion. C'est-à-dire, on a gagné. On a trouvé un tour de passe-pape.
Je vois une conclusion pour en parler après.
Et voilà. Résumé de l'épisode.
Alors, moi, ce que j'avais par rapport à ça, j'ai coupé mon stream d'écran parce que j'avais pas d'idée. J'ai pas d'idée pour la vignette du tout. Je suis désolé. Je voulais faire la vignette pour les podcasts et je n'arrive pas à avoir d'idée.
Bon, on en parlera tout à l'heure, t'inquiète. J'ai des idées.
Tout à l'heure, mais pour l'instant, j'ai pas d'idée, donc on pourra en discuter. Alors, pour moi, en tant que néophyte, cet épisode, c'est une surprise et une déception. Et en même temps, c'est une déception d'ouïe sur 20. Tu sais, je m'attendais à rien et je suis quand même déçu. Pourquoi je dis ça ? Parce que quand tu le vois, tu sens que c'est ok, ça fait 3 saisons qu'on vous a bercé à la Star Trek, nous allons sur une planète, il y a des problèmes, on règle le problème, on se casse. Et ils vont sur l'autre planète, quoi. Là, c'est la première fois que déjà des ennemis reviennent, donc on a déjà vu une ou deux fois les Ferengi parce qu'ils essayaient d'amener ça, mais complètement avec le cul. Mais que des ennemis véritablement dangereux reviennent, et c'est pas un ennemi à la Q, où Q c'est juste une péripétie d'aventure, quoi. C'est le temps d'un épisode. Les Borg, c'est un peu l'équivalent des Klingons, c'est-à-dire ce sont c'est un empire avec lequel tu dois composer. C'est un univers avec lequel tu dois composer. Et donc le fait de te les faire revenir marque un truc dans Star Trek, c'est une continuité. Une vraie continuité qui en plus amorce, sous-entend d'autres épisodes autour de ça. Parce que rien que le fait qu'on va te créer le défiant, rien que le fait qu'on te dit, en fait, mais Riker, il peut partir, en fait. Parce que ça fait depuis très longtemps que ce mec est apte à être capitaine, mais il le refuse et tout. En fait, tout d'un coup, l'univers, ça rend l'univers de Star Trek parfaitement crédible. Tu as, comme je parlais, cette fameuse géopolitique qui manquait tant, qui s'installe. Tu as les personnages qui s'approfondissent véritablement en une fois, mais au-delà au-delà de l'Enterprise, c'est-à-dire au sein de la Fédération. Tu découvres les Borg, toi tu dis il y a plein d'informations, tu découvres les Borg, mais c'est pas découvrir les Borg, c'est tu découvres une civilisation et des modes de fonctionnement qui sont avec lesquels tu vas devoir composer. Donc en gros, c'était ce qui manquait à TOS. Quand tu avais les Klingons, tu croisais des Klingons de temps en temps. Tu savais que c'était un peu des. Enfin, ils n'étaient pas vraiment déterminés. Alors que ici, on te dit, ok, t'as un nouvel empire. Enfin, je me dis empire, mais c'est, je sais pas comment on dit. T'as un collectif et tu dois apprendre à les comprendre. Le problème qu'il y a, c'est que chaque information n'est pas pour régler un problème, un conflit entre qu'est-ce que je vois là. Chaque information n'est pas là pour régler un conflit entre deux factions dans laquelle la fédération va se poser en arbitre. Là, c'est si on règle pas le problème, on est mort. On est mort. Et donc, je comprends que ça plaise, je comprends que ça marque. Et le problème, comme tu dis, c'est qu'après, on n'en parle plus parce que Star Trek revient dans son truc de Star Trek, c'est-à-dire, ah, il y a encore une planète juste à côté, et en fait, ça aurait dû être quelque chose qu'on aurait dû maintenir tout au long. Et je pense que c'est pour ça que cet épisode a marqué, parce que c'est un épisode qui intégrait de l'univers trekkien. Tu avais du lore, tu avais des conséquences intergalactiques. Et comme il n'y a eu que ça, et que ça n'a pas été un ennemi qu'on a traîné sur plusieurs épisodes, ou juste en filigrane, on commençait à te parler des Borg qui revenaient et tout ça. Et qu'en plus il est invincible, je comprends qu'on considère que c'est un des meilleurs épisodes de TNG. Après, pour moi, j'ai vu un épisode de TNG. Je t'avoue, c'est-à-dire, ça souffre de ce que les autres épisodes souffraient, c'est-à-dire, tu te fais un peu chier. Il y a des moments où ça manque d'une réalisation un peu plus inspirée, mais tu peux pas le reprocher par rapport à l'époque, par rapport au type de programme que c'était. Les Borg sont dangereux que sur le papier, quoi. C'est parce que t'as un mec qui t'a dit oui, mais ils sont méga dangereux. Parce que quand t'arrives, quand les mecs se baladent dans les couloirs des Borg, et que t'sais, ils sont là comme ça, en train de marcher, ou alors ils bougent pas, et tu te fais. Enfin, c'est un peu nul, quoi. Il y a ce plan que j'adore, c'est dans le deuxième épisode, c'est quand Picard est en Borg et il parle à Worf. Et alors, on a dit. Tu vois qu'on a dit à l'acteur, je sais plus comment il s'appelle l'acteur.
Worf.
Pas Worf, mais l'acteur de Picard.
Patrick Stewart.
Patrick Stewart, on lui a dit, ouais, t'es un robot. Et lui, il a fait le robot, quoi. Et là, il a fait, ah, on va tous vous choper, machin. Et il lui dit un truc comme ça. T'as Worf que ah, les Klingons se laisseront pas faire. Ah, la violence est inutile. Et il se bat. Et le plan, comme la caméra bouge pas, le plan. Enfin. C'est un peu ridicule, quoi. C'est un peu kitsch, voilà. Mais si tu le mets dans le cadre de toute la série, bah ça passe. Et en plus, c'est un peu du grand spectacle, hein. Tu sais, moi, le premier plan, il est vachement impressionnant. Tu sais, quand il arrive sur la planète, t'as un plan pur Star Trek où il pop dans un décor en carton et ils font trois pas et là, t'as l'espèce d'énorme cratère. C'est impressionnant, quoi. Donc voilà, donc moi je comprends pourquoi cet épisode a marqué quand tu le vois, et je comprends pourquoi il déçoit, puisqu'il n'amène à rien. Et c'est un véritable manquement. Il n'amène à rien de plus que les gens pour fantasmer un peu dans leur coin, j'ai l'impression.
Bah, surtout que gestion de cet épisode va se faire en plusieurs temps. Et je pense que l'équipe qui a écrit, ils le disent entre les lignes, hein, ils se sont pas rendus compte de ce qu'ils avaient fait. C'est-à-dire qu'ils étaient tellement pressés, alors je vais en parler tout de suite après, mais ils se sont pas rendus compte. Et l'épisode, il a été, comme tu le dis, on aurait dû avoir 3-4 épisodes de conséquences derrière.
Ouais.
De tout ce qui change dans l'univers de la Fédération à ce moment-là, parce que on le voit dans DS9, il y a des choses qui changent. Il y a un peu cette situation, un peu comme nous on la connaît, la post-Covid. Ils posent des questions sur quelle est leur réelle utilité dans l'univers. C'est ce qui se passe avec Cisco dans DS9. Tu as, après, dans First Contact, tu as Picard qui n'a pas digéré tout ça et qui se pose la question de est-ce qu'il est vraiment un ennemi de la Fédération ou pas. Et tu as Janeway aussi qui en parle après dans Voyager et avec l'arrivée encore plus de Seven of Nine, pose la problématique de ce qu'a créé l'intrusion Borg à ce moment-là. Elle a gêné l'humanité, elle a gêné l'expansion de la Fédération et elle a remis en cause tout ce qu'ils construisaient, quoi. Pardon.
Mais ça, c'est cool parce que tu l'expliques.
Oui, et c'est tout le problème de cette série d'épisodes, c'est que à part l'épisode avec Picard qui va revoir sa famille après, bah, les autres personnages n'ont pas de conséquences, quoi. Ils ont pris leur vie normalement. Alors que, bah, on a perdu des membres d'équipage, a été détruit, qu'ils ont perdu des copains avec qui ils étaient officiers. Et ça, on va le voir arriver plus dans DS9. C'est-à-dire que dans DS9, bon, on va pas tant parler que ça de la bataille de Lwoff 359, mais durant la saison où il y a l'arc de guerre contre le Dominion, il y a des épisodes entiers où ils regardent en fait un tableau des pertes. Et tu les vois tous les jours aller se dire « Ah bah j'ai servi avec un tel. Ah bah je connaissais le frère d'un tel. » Et tous les jours, ils sont là en train de marquer le coup des pertes qu'ils subissent. Et il y a plusieurs épisodes sur les vétérans. Il y a un excellent épisode avec un des jeunes héros de DS9 qui s'est engagé dans Starfleet et qui se retrouve dans une escarmouche durant la guerre et il perd sa jambe. Et donc après, il essaye de se reconstruire avec sa jambe en moins, alors qu'on est dans le futur, qu'ils lui ont greffé tout ce qu'ils avaient à greffer, quoi. Mais il vit dans ce stress-là, quoi. Et c'est toutes ces choses-là qui ont été bien développées dans DS9 et qui n'ont pas du tout été développées après dans Star Trek TNG, qui ont été aussi développées dans Voyager avec l'arrivée de...
TNG Voyager, c'est postérieur, mine de rien, à ce moment-là. On prend les erreurs. Si, en plus, ils ne savaient pas quoi faire à ce moment-là. Il y a vraiment ce côté... tiens, on apprend, on a acheté un caillou dans la mare, tiens, ça fait des ronds. Tu fais.
Je respire.
Ok.
C'est de la ventoline.
Ok, du coup, il y a ce côté, ouais, ils savaient pas trop quoi faire, mais il n'empêche que pour moi. C'est vrai que c'est intéressant parce que du coup, t'as vraiment un truc du. Faut faire gaffe un peu à ce que t'écris parce que si t'es pas prêt d'avoir. Enfin, pas de faire gaffe, mais d'avoir conscience des conséquences de ce que t'écris.
Bah, est-ce qu'on peut avoir des fois conscience que t'écris quelque chose de majeur ?
Alors, pas le fait d'écrire quelque chose de majeur, mais par exemple, le meilleur exemple, c'est que l'épisode est centré sur Riker. Tout cet épisode, mine de rien, c'est un épisode de transition. Mais pas au sein, pas que au sein. En fait, c'est ça le problème. C'est un acte, c'est un épisode de transition complètement raté dans sa transition. C'est-à-dire que c'est un épisode de transition dans l'univers de Star Trek. Donc, les choses ne seront plus jamais comme avant. Et c'est ça la fin de l'épisode. Quand tu disais, il n'y a pas de conclusion. Moi, c'était ça que je voyais. Picard qui était inébranlable. Tu sais qu'il est brisé. L'Enterprise qui était censé être le vaisseau. Techniquement, qui peut tout régler, puisque c'est le vaisseau que tu suis depuis le début de TNG.
C'est le vaisseau amiral.
Le nom, tu vois, qu'en plus il porte le nom de celui de Tuss. Il a cette aura narrative. On te dit, bah, il sert à rien. Il n'a pas la puissance nécessaire. La Fédération pourra plus jamais faire ce qu'elle faisait comme elle le faisait. Et au sein de l'équipage, l'équipage n'est plus fixe. C'est ça que dit l'épisode, c'est Riker, normalement, devrait se barrer. Tu pourrais suivre des épisodes où Riker, en fait, tout d'un coup, on remet en question le jeu de cartes que tu as à la base, en fait. Et comme ils n'en font rien, moi, je trouve que c'est ça qui est frustrant. Et où je dis que c'est un acte manqué, parce qu'en vrai, le fait qu'on te pose des questions sur Riker, sur son, tu sais, on lui dit, ouais, mais c'est parce qu'en fait, c'est quand même bizarre qu'il ne veut pas se barrer. Est-ce que c'est parce qu'il est trop mou? Est-ce que c'est parce qu'il est tellement bien, là, ça fonctionne tellement bien qu'en fait, il a pas l'envie d'aller plus loin, d'avoir son propre bâtiment, alors que c'était son ambition d'entrée de jeu. Et en fait, ça devait te dire, ben, plus tard, clairement, plus tard, il aurait dû avoir son vaisseau. Il aurait dû partir. Ça aurait été tourné en 2020, il serait parti une saison plus tard, et on aurait eu un spin-off sur le vaisseau de Riker. Clairement.
Bah, on n'a toujours pas Captain Worf, hein, depuis toutes ces années dont on en parle.
Voilà, on n'a pas Captain Worf. Mais donc, du coup, c'est l'acte manqué. Et à nouveau, est-ce qu'on peut le reprocher, sachant qu'à l'époque, c'est pas dans la mentalité des saisons, des séries, de faire ça. J'ai pas vraiment de souvenir de... Enfin, tu vois, y a pas cette logique... ouais, ils ont fait Madame Colombo, quoi.
Bah, on est très loin des NCIS ou des
voilà.
Police scientifique Las Vegas et tout ça. Hein. On n'est pas encore dans ce
voilà,
délire-là.
Moi, je comprends parfaitement qu'ils n'y aient pas pensé, mais c'est d'autant plus frustrant. Et donc, quand je parle des conséquences, bah, j'ai pu raccrocher les wagons, de ce que tu écris, c'est pas compliqué de prendre conscience, pas que ça va être incroyable, mais que si tu mets en place tout un truc où on te dit, tiens, Riker, t'es censé te barrer, ou si on te pose la question de tiens, pourquoi t'es pas parti, pourquoi tu devrais pas, alors que tu devrais partir, c'est une question que tu es obligé de poser plus tard, d'amener plus tard. Tu peux par exemple laisser les Borg pendant 2 saisons et puis on revient sur eux plus tard, parce qu'on peut dire tiens, entre temps il s'est passé ça. Par contre, une évolution comme celle de Riker, où on lui dit l'épisode de Riker, c'est bizarre qu'il veut pas son évolution, c'est bizarre qu'il veut, il pourrait être capitaine, et est-ce qu'il a les compétences pour être capitaine? Et la fin de l'épisode, la réponse c'est oui. C'est ça, le parcours de Riker. Et à la fin, il fait ok, et t'as pas de réponse.
Alors,
et ça, quand tu l'écris, t'es censé être conscient de ça.
Et ben, pour en venir à ce sujet-là, elle est un peu étrange de ce double épisode. À savoir que l'équipe créative a écrit l'épisode partie 1, donc fin de saison 3, partie 1, sans savoir s'il y aurait une saison 4. Et l'idée de l'écriture de cet épisode, c'était pour faire en sorte que l'acteur, donc Jonathan Frakes, ne parte pas de la série, parce qu'il pensait quitter la série, il en avait marre. Et je crois que c'est Bretman ou Breeman, enfin je bouffe son nom comme d'habitude, qui écrit cet épisode et lui aussi pense partir. C'est un épisode un peu de... Oui, il le dit lui-même, c'est un épisode où j'ai l'écho de ce que je suis en train de faire et que je mets dans la bouche de Riker ce que j'ai envie de dire. Et c'est un épisode où bah, il ne savait pas comment allait évoluer la saison 4, qui allait rester, qui allait pas rester, donc il fallait se garder des portes de sortie. Ce qui se passe à la saison 4, c'est que le panel d'écrivains est totalement renouvelé, donc il y a une toute nouvelle équipe, et on leur dit bah, il faut finir l'épisode 3 avec le cliffhanger, chose qui n'était jamais faite. Et les gars se regardent et essayent de bricoler un truc en disant bon, on a gardé tout le cast. Comment qu'on finit ce truc pour repartir sur des nouvelles bases, quoi.
Okay.
Et c'est pour ça qu'il y a cet écart-là, en fait, en termes d'écriture, entre la partie de la troisième saison, qui est très dense,
ouais, voilà.
Et l'épisode de la saison 4, le premier, qui est léger, et puis avec un magueur, pas terrible, quoi. Intéressant, mais pas terrible. Parce que les gars n'avaient aucune idée de comment finir l'épisode. Et que bah, du coup, Jonathan Frakes renouvelant pour une saison, c'était plus intéressant de le laisser partir. Voilà. Et c'est aussi un problème qu'ils ont eu dans l'écriture en rendant le personnage de Shelby très fort.
Shelby, c'est celle qui est...
experte en Borg.
Okay.
Et du coup, tu sentais que dans la saison 3, si la saison 4, Jonathan Frakes, elle allait devenir le nouveau commandant en second, quoi.
Ouais, effectivement. Ok, effectivement. Bah, c'est assez dingue de voir. Moi, je suis toujours fasciné par ces mecs qui doivent. Qui arrivent à rattacher les wagons à la dernière minute. Il y a une histoire comme ça dans un tout autre truc, c'est dans bah, Dragon Ball d'Akira Toriyama. Il y a l'arc Cell. Alors, l'arc Cell, il se construit avec Trunks qui vient du futur, qui prévient qu'il y a une attaque de cyborg. On découvre C-19 et C-20, qui en fait sont le docteur Gero, qui était en train de travailler sur C-17 et C-18, qui étaient en gros des piles, des batteries d'origine pour la création ultime du docteur Gero, qui est Cell, et à chaque absorption, il devient de plus en plus fort. Tout ça a été inventé semaine par semaine. C'est-à-dire qu'en gros, j'ai un bouquin qui parle de ça, t'as Toriyama qui voit Terminator, avec un gamin du futur qui prévient d'une attaque de robot, et il fait « Ah oh, bah c'est pas mal ça, je vais le reprendre », donc il fait Trunks. Il prend les deux cyborgs, il dit C-19 et C-20, sont, dans sa tête, ce sont les cyborgs du film qu'il doit combattre. Et t'as l'éditeur qui l'appelle et qui dit « Mais t'as vu leur gueule, ils sont dégueulasses, le vieux le gros là, tu vas me changer ça ». Et lui, la semaine d'après, parce que lui, il doit faire, hein, semaine par semaine, il fait ses chapitres, il fait « Non, 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 attendez, attendez, en fait, c'est pas ça, il y en a deux autres ». Il fait C-17 et C-18, ça ne plaît toujours pas à l'éditeur, il fait « Non, attendez, il y a celle, et puis après, je vais les récupérer les anciens, et tu le fais juste pour trouver un design d'ennemi impeccable, quoi. » Et le gars, il invente semaine par semaine cette aventure, alors que quand tu la lis, c'est éclaté, mais ça marche. Tu t'en rends pas compte. Et moi, je suis fasciné par ces auteurs qui sont capables de rebondir, de récupérer, avec plus ou moins de casse, les wagons qu'un mec a laissé derrière. Et effectivement, c'est vrai que je me posais la question de l'acteur, que le fait qu'il puisse devenir capitaine, soit ça devenait un spin-off, soit c'était une porte de sortie pour pouvoir se barrer et couper. Ah, il est parti loin dans l'espace, comme ils ont fait avec Wesley. Où ils ont dit allez salut on t'envoie dans l'espace et le temps.
Ou avec Crusher aussi, la saison 2 qui
Oui,
disparaît.
c'est ça. Bah c'est ça, c'est Wesley Crusher, hein.
Non, il y a sa mère déjà à saison 2 qui n'est plus que
Ah oui.
le docteur de l'Enterprise, c'est Pulaski, et après elle revient dans la saison 3. Mais faut savoir que Star Trek est coutumier du fait, hein, la saison 1 s'est faite durant une grève des scénaristes, une des plus longues grèves de à Hollywood, quoi. Donc, bricoler à la dernière minute et faire des fins au jour le jour, ils étaient plutôt spécialistes. Ce qui marque en fait une rupture, c'est ce nouveau panel d'écrivains qui arrive, et il y a notamment Ronald D. Moore dedans. C'est Ronald D. Moore qui signe la fin de cet épisode, avec notamment la bataille de Worf 359, et tu sens qu'ils avaient déjà par contre une idée de ce que pourrait être la suite de Star Trek avec. Alors, ils avaient une idée parce que les gars, enfin, pas eux, hein, mais les gars au-dessus. Elle leur disait, il faut nous faire des spin-offs. Et donc, ils se sont dit, bah, ça va nous servir de pierre angulaire pour lancer de nouvelles saisons. Pour expliquer qu'il ne peut pas y avoir que les aventures de l'Enterprise et que la Fédération, c'est des milliers d'officiers qui veillent au bon maintien de la sécurité dans la galaxie, quoi. D'où l'idée de DS9 après et d'où l'idée de Voyager par la suite.
D'accord.
Et de créer un univers plus ou moins connecté. Mais oui, Hein?
Excellente idée, je trouve.
Et ben c'est pareil, tu vois, dans DS9, on part. Quand tu as déjà vu le pilote?
DS9? Non, j'ai
Non,
pas
bon.
encore.
Dans le pilote, de toute façon, tu as Picard qui est introduit. Il y a une scène entre Picard et Sisko. Donc Sisko parle super mal à Picard. Et Picard comprend pas. Tu vois, il joue son petit anglais choqué là. Et il lui dit, mais. Quoi, vous n'êtes que lieutenant-commandeur, enfin, vous êtes capitaine parce que vous êtes nommé pour gérer la station, mais attention au grade. Et l'autre, il lui dit, oui, mais je parle comme je veux à l'assassin de ma femme. Il y a déjà, entre guillemets, tu vois, des tensions, des choses qui n'existaient pas dans l'œuvre de Star Trek, des tensions entre officiers. Bon, à la fin de l'épisode, il se ravise un peu en se disant, oui, bon, bah, je comprends que. Voilà, avec la nouvelle réalité qu'on m'offre, avec ces nouveaux dieux qui m'expliquent que le temps c'est assez relatif et que on n'est que des pauvres pions, je comprends que vous les mains débordent, quoi. Mais il lui en voudra toute sa vie et lui ne verra qu'en Picard Locutus de Borg et il lui fait bien comprendre à Picard. Et d'ailleurs, les 3 ans de sa vie qui passent entre la bataille de Worf 359 et la prise de la station DS9, le commandement. Il passe son temps en ingénierie à construire un vaisseau capable de poutrer la gueule des Borg la prochaine fois qu'ils viendront, à savoir le Défiant. Donc là, tu vois, c'est intéressant parce qu'il part dans une construction. Le personnage s'est construit. C'est très léger, hein, mais c'est quand même dit. Et dans Voyager, l'intérêt de Voyager aussi, c'est quand il rencontre les Borg, le vaisseau est partiellement assimilé par les Borg une ou deux fois, et le Voyager décide de garder cette technologie pour améliorer le vaisseau, quoi. Et après, il y a toute la rédemption, enfin la rédemption, la recherche d'humanité de Seven of Nine, c'est tous ces épisodes qu'il n'a pas pu faire Picard, où Seven of Nine se rebelle et plusieurs fois demande est-ce que c'était mieux d'être Borg. Et l'humanité, en l'occurrence Janeway, moi je me rappelle d'une ex-compagne qui me disait j'aime pas le Voyager parce que Janeway c'est une connasse. Parce que Seven of Nine demande plusieurs fois de redevenir un Borg. Elle dit voilà, j'ai testé l'humanité, ça me plaît pas, je veux redevenir un Borg. Et Janeway lui dit non, tu dis de la merde. Alors que l'autre, elle est consciente de ce qu'elle dit, elle sait ce qui va. Et c'est plein d'épisodes comme ça qui sont super intéressants. Dans cette recherche d'humanité, en fait. Mais trop disséminée et qui aurait pu apporter au personnage de Picard une dimension plus humaine d'ailleurs. Plus humaine, et pareil dans l'épisode où il revient avec son stress post-traumatique, il reste quand même un putain de connard, quoi. Qui a un frère qui est un putain de connard. Donc dans une famille de putain de connards, voilà.
Mais c'est marrant parce que c'est aussi, t'avais expliqué, c'est une confrontation de deux manières de réfléchir le personnage. Parce que t'avais expliqué que, une fois, je suis assez d'accord avec cette théorie, maintenant que j'ai vu beaucoup plus d'épisodes de Star Trek, c'est que le capitaine n'a pas de personnalité, entre guillemets, sa personnalité s'exprime à travers son équipage. Et le capitaine reste cette espèce de pierre angulaire autour de laquelle tout le monde gravite, et surtout qui c'est le mât qui tient le chapiteau, quoi. Et c'est ce qui se passe avec l'épisode. La première partie, c'est quand t'as l'amiral qui dit oui, il te fait comprendre ce que c'est que de perdre Picard, en fait. Il lui dit oui, il y avait un mec, il était incroyable, il a réussi tel truc et tout, cet homme s'est appelé Jean-Luc Picard et blablabla. En fait, il te fait comprendre ce que c'est que de perdre ce mec-là, sauf que cette écriture-là va à l'encontre d'une écriture qui vise à humaniser des personnages, ton personnage en lui imposant des changements de personnalité, tu vois, qui lui arrivent après. Et en fait, c'est deux manières de concevoir complètement différentes. C'est une manière, des personnages qui sont juste, entre guillemets, des archétypes, qui n'évolueront jamais sauf en créant des liens entre eux, mais par rapport à leurs propres archétypes, et une écriture beaucoup plus évolutive, mais qui déjà pour ça impose une certaine impose d'avoir déjà une certaine conscience de ce que le personnage représente et où est-ce que tu peux l'emmener. Et or, ça va à l'encontre notamment de la fonction du capitaine. Picard peut pas évoluer. C'est pour ça que j'imagine que quand il va voir DS9, Cisco dans DS9, c'est le Picard que t'as vu dans le premier épisode de TNG, et même quand il est en, quand il râle dans l'épisode où il retourne sur Terre, la manière dont il s'offusque d'avoir été, tu sais, il dit j'ai été, il est abattu, il balance ce qu'il dit, genre ils sont entrés dans ma tête, ils m'ont manipulé, j'ai en tête ce souvenir-là, peut-être que j'ai de la merde.
Ouais, c'est ça.
Mais en fait, tu sais le Picard d'avant. C'est juste un mec qui a été brisé dans sa fierté, mais il n'y a aucun changement par rapport à avant, il n'y a aucune conséquence à tout ce qui se passe. Alors, c'est un événement qui est présenté comme ayant des conséquences, devant porter des conséquences.
Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on voit un peu, maintenant que tu en parles, les Discovery. C'est-à-dire que Riker, tout au long de sa construction en tant que capitaine, il a toujours besoin de Geordi LaForge.
Okay.
C'est-à-dire que quand tu regardes l'épisode, ça vient de me sauter aux yeux maintenant, c'est Geordi LaForge qui lui dit « Refusez pas les conseils de Shelby. Elle peut être intéressante. L'équipe est fatiguée, mais elle peut continuer. » Parce qu'il lui dit, à un moment, il dit à Shelby « Je préfère une équipe Giroborg. » qu'une équipe qui doit lutter et contre la fatigue et contre les Borg. Et Geordi lui dit, mais vous nous avez pas demandé notre avis, nous on peut tenir. Et on sait qu'on peut le tenir, quoi. Et en fait, c'est Geordi plusieurs fois dans les deux épisodes qui conseille intelligemment Riker, et Riker qui se ravise après. Et tu vois, ça, c'est un, par exemple, c'est quelque chose, je sais pas s'ils l'ont fait exprès à l'époque, mais c'est quelque chose qu'on retrouve énormément maintenant dans Discovery. C'est-à-dire que le schéma de la, du capitanat dans Discovery, c'est je suis capitaine, je... un sous-fifre plus sage que moi va m'expliquer mon erreur et je vais me raviser. Alors que ce soit dans DS9 ou dans TNG ou Voyager, le capitaine, il ne faisait jamais d'erreur parce qu'il prenait toujours conseil avant.
Oui.
Voilà, il y a ce côté un peu humanisant qui revient là-dessus. Pour clore la... pour clore la parenthèse là-dessus, on voit aussi qu'il y a une différence d'écriture, mais d'écriture entre TOS et... C'est-à-dire que, bon, c'est ma blague, hein, Star Trek ça devient bien qu'à partir de la saison 4. Bah là, tu vois, on sent qu'il rentre dans l'ère de la maturité. Il sent, tu sens que sur cette écriture-là, même si l'épisode est bâclé, tu sens qu'ils sont en train de travailler sur une saison 4 où il y aura beaucoup plus d'épisodes qui ont un écho dans leur temporalité. C'est-à-dire qu'ils ont compris ce que veulent les gens des années 90. Et ils ne font plus du programme télé comme pour les années 70.
Ouais, tout à fait.
Et c'est une rupture. Vas-y, vas-y, ouais, c'est juste une rupture.
Ouais, c'est intéressant parce que tu vois les... quand tu regardes, bah, surtout TNG, parce que c'est... DS9 et Voyager récupèrent... en fait, TNG essuie les plâtres pour DS9 et Voyager. Même pour Babylon 5, hein, parce que quand tu regardes Babylon 5, en fait, Babylon 5 fait ce que Star Trek aurait dû faire et peut se le permettre, parce que Star Trek est passé avant, pour faire les erreurs. À savoir que l'histoire est écrite sur 5 saisons. Et que, du coup... avec plusieurs portes de sortie pour les différents personnages, et du coup peut se permettre de donner une trame, et j'imagine que peu importe le scénariste, tu as, si tu respectes la trame de fond, tu peux faire un épisode des saisons qui ont une cohérence, tu vois, les uns avec les autres. Et en fait, ça qui est intéressant, et forcément TNG étant le premier, c'est vraiment ouais, comme tu dis, tu vois le passage d'un mode d'écriture antérieur à, on va l'appeler pré-moderne, parce que on peut considérer que ce système d'écriture a été moderne, enfin vraiment complètement acté, moi je dirais, dans les années 2000. C'est-à-dire je le caste avec par exemple allez merde, un exemple du genre en termes d'écriture, Supernatural. Ouais, parce que Supernatural, c'est ça, c'est-à-dire que les 5 premières saisons avaient été complètement définies, et c'était épisodique, et alors il y avait la formule à l'époque, Dr. House le faisait aussi, c'était les 2 derniers épisodes, 2 épisodes au centre, 2 épisodes à la fin, c'était le grand plot, et puis tu faisais des petits épisodiques de temps en temps. Et donc c'est vrai que c'est intéressant, vraiment, cet épisode, finalement, pour moi, n'est pas culte. Pas parce qu'il est, il est culte, pas parce que c'est genre le meilleur épisode de tout TNG, on pourra jamais faire mieux et tout, parce que justement tu sens très très fort ses faiblesses, mais parce qu'il représente un changement de mentalité dans la part des showrunners.
Bah,
et c'est... Oui.
Bah, en même temps que tu parlais, là, je regardais toutes les séries sorties en 1990, et c'est des séries. Et ben, tu vois, je pensais, je réfléchissais à ce que tu disais sur des séries où en fait tu t'apercevais que les gars, à chaque fin d'épisode, ils rebootaient. C'est-à-dire, ouais, ils n'avaient pas vécu dans leur chair quelque chose. Et je regarde des séries des années 90, ou qui avaient une suite, quoi, qui n'étaient pas juste des épisodes standalone. Donc t'as Lois et Clark, t'as Flash, bon, t'as Flash, le vieux avec le coltan montonné. Tu as Stargate, tu as Buffy contre les vampires, tu as The Crow. Et c'est vrai que maintenant, ou 7 jours pour agir, ou Demain à la Une, ou Code Quantum, où finalement, les gars éprouvaient des choses terribles dans chacun des épisodes. Ils pouvaient souffrir, et puis dans l'autre épisode, ils avaient déjà oublié. Il faudra attendre presque des séries des années 2000, comme Le Caméléon. Même X-Files, tu vois, souffre de ça, moi, je trouve. Il faudra attendre les années 2000, comme Le Caméléon, Charmed, toute cette vague de séries où bah, les gars ne s'en remettaient pas forcément. Tu sentais que les scénaristes se disaient « Attends, elle a déjà vécu ça, il a déjà vécu ça, Il peut pas réagir comme ça là maintenant.
Et d'ailleurs, Buffy, tu sens l'évolution.
Oui.
Tu sens parce que moi j'aime beaucoup la dernière saison. Parce que je l'ai vu par la suite. Et donc j'ai vu le mec rattacher les wagons et réussir à créer des vraies conséquences.
Bah, c'est surtout Angel, quoi. Tu vois, dans Angel, les gars, ils reviennent cassés, quoi. Ils sont tous cassés.
C'est vraiment très très bien. C'est juste, c'est dommage que ça ait été charcuté pour la fin, mais j'aime beaucoup aussi. Et ouais, non, tu sentais, tu sens ce côté très épisodique qui a duré très longtemps, parce que moi je me rappelle aussi 2005, t'as Monk, Monsieur Monk.
Oui.
Dr. House, mais après c'était les séries policières, donc
alors...
on avait encore beaucoup, ils revenaient, tu sais, le statu quo était amené, mais dans Dr. House, tu commençais à sentir l'évolution dans les séries. Et par exemple, moi je trouve que c'est ce qui fait que t'as pas envie de regarder. Genre par exemple, Stargate, j'aime bien l'univers, j'aime bien le concept, mais t'es puni de regarder Stargate par la série, parce que j'ai essayé Atlantis et j'ai pas envie de m'investir. Mais je sais que les gars, ils vont arriver au même résultat à la fin. Et tu vois, est-ce qu'ils vont rebooter? Alors que moi, alors que j'avais une bonne motivation, je voulais voir Jason Momoa. Tu vois?
Et qui est totalement anecdotique, hein. Alors là, c'est...
Coup, moi, je voulais voir Jason Momoa. Tu sais, dans Game of Thrones, il était anecdotique. Je m'en rappelle.
Ouais. Mais Atlantis, pour faire une petite parenthèse là-dessus, la seule chose qui est bien dans Stargate Atlantis, c'est l'humour. C'est-à-dire qu'ils sont vachement plus déconnants et ils partent vachement plus dans des délires spatiales, quoi.
Mais du coup, le fait que... parce qu'en fait, c'est le problème, c'est que comme ils ont un problème de fond qui est... putain, faut qu'on rentre jusque chez nous, machin et tout, et que ce problème, il est à moitié réparé. Je crois déjà à la fin de la saison 1, ils avaient réparé un truc. Mais t'es pas... À nouveau, c'est l'évolution psychologique n'existe pas, et du coup, tu n'es pas récompensé pour suivre ça. Alors que, par exemple, dans Supernatural, qui est... Alors, ce qu'il faut savoir avec Supernatural, c'est qu'en fait, je sais pas si t'as suivi, toi.
Oui, oui, jusqu'à la saison 12, après, quand ils ont commencé à se taper contre la sœur de Dieu, j'ai commencé à décrocher un peu.
C'est bon, il te reste 3 saisons pour terminer.
Voilà.
Il te reste 3 saisons.
Oui, oui, mais je vais m'y mettre, mais...
Mais Supernatural, c'est un très bon exemple, parce que Supernatural, c'est 5 saisons qui ont été pensées en un bloc, et après, on fait des doubles, des diptyques. Et quand tu vois les 5 saisons... Alors que tu regardes des trucs épisodiques, avec un donc c'est 5 saisons, un boss par saison, un gros boss sur 2 saisons, donc tu butes le lieutenant et après tu butes le méga boss, c'est hyper chouette à suivre parce que tu peux avoir ton truc, on se prend pas la tête, mais tu restes dans un environnement qui a des conséquences. Et au point que mon seul vrai regret. Avec la saison, parce que moi je crois que j'étais jusqu'à la saison. J'ai un peu vu. J'ai vraiment suivi, je crois, jusqu'à la saison 10, un truc comme ça, ou 9. Et après, j'ai vu des épisodes de temps en temps, jusqu'au dernier épisode. J'ai vu la saison 5. Le dernier épisode, le final, j'ai pleuré ma mère. Mais. Je sais plus ce que j'allais dire, je me suis perdu. Merde. Voilà, ce qui manquait, c'était une intégration dans l'univers. Genre, à un moment donné, dans les 5 premières saisons, t'as quand même un mec qui dit « Voilà, le FBI, il sait que vous existez. » Et on n'en parle plus après. Il continue à faire... Et du fait, c'est pas possible. Vous avez amené le fait que les mecs sont poursuivis par le FBI, vous pouvez pas juste régler le truc comme ça. Qu'est-ce qu'on fait après, quoi ? C'est beaucoup trop gros. Donc voilà, donc je trouvais ça vachement intéressant. Et c'est vrai que, pour revenir sur Star Trek, ben... Ouais, Star Trek, ça essuie les plâtres, quoi. C'est, quand tu vois la première saison, c'est clairement, ok, vous avez aimé TOS, et ben maintenant, on va pouvoir faire du TOS. Star Trek, TNG, première saison, c'est, on fait du TOS avec le budget de maintenant. Et les idées de maintenant. Et puis, t'as ce fameux épisode, ce diptyque, le meilleur de deux mondes, où tu vois cette espèce de transition qui est prometteuse et qui n'arrive pas, et à mon avis c'est aussi pour ça, et la rareté de l'information. Tu sais, les Borg, c'est stylé quand ils apparaissent une fois, dans Voyager ils sont bouffés toutes les semaines.
Puis c'est plus des grands méchants. C'est-à-dire, alors, ça. Ce qui est intéressant aussi, c'est que ça rabat les cartes. C'est-à-dire qu'on était sur une sorte de... Bah, Starfleet était Starfleet, les Romuliens étaient les Romuliens, les Klingons étaient les Klingons, et c'était compliqué. Des enjeux là-dedans.
Oui.
Et les Borg-Rom étaient un enjeu majeur en étant une menace qui était une menace d'ordre catastrophe naturelle. C'est-à-dire que les Borg sont ni bons ni mauvais, c'est un ouragan, et quand il passe, ben, tu fermes ta gueule et tu suis l'ouragan, quoi.
Et c'est un peu comme les Gorn, c'est une menace avec laquelle tu ne peux pas négocier.
Voilà, et tu fais avec. Et même les Klingons sont menacés, même les Romuliens. Et ce sera comme après avec le Dominion dans DS9, espèce 8748 en Voyager. Tu fais avec. Après, c'était en ça que ça devenait assez fantastique. Alors après, la réalisation de l'épisode aussi, elle est balèze. Hein. Pour la petite histoire, le laser que porte le Locutus quand il se tourne et qui regarde la caméra, ça a coûté $200. C'est-à-dire que c'était un laser qui traînait dans l'équipe technique. Et ils font plein de tests et ça marche pas. Il y a un gars qui arrive qui dit si on mettait de la fumée. Et là, du coup, le laser marche. Et ils disent regarde la caméra, c'est Patrick. Et Patrick, il regarde la caméra, il sait pas ce qu'il fait, il comprend pas, on lui explique pas. Et ça rend bien. Voilà. Pareil, les maquillages de tous les bords qui étaient faits à la chaîne. C'est-à-dire qu'ils ont mis une sorte de vraie chaîne d'industrie pour maquiller les Borg, et à chaque fois il y avait un tour pour que le dernier qui maquille fasse un peu n'importe quoi pour pas qu'aucun Borg se ressemble, quoi, tu vois. Et pareil, c'est des kits pour la petite blague, pour ceux qui aiment faire des maquettes. Vous avez souvent la maquette, elle est en 2D, donc hauteur et largeur, et puis tout est collé. Et en fait, le mec, il a pris ça, il en a pris 4, 5, 6, il les a collés ensemble, il a blindé dedans, et puis il a fait le cube Borg, quoi. Voilà, pour gagner du temps. Voilà, donc ça marche et ça fonctionne, quoi. Voilà, et il y avait plein de choses qui auraient dû, en fait, l'épisode était construit de façon, il y avait notamment en fait plusieurs explorations du cube avant que ce dernier attaque, où chaque nodule neural des Borg s'appelait Locutus.
Okay.
Et ça aurait introduit le fait que Locutus était le méchant, et à la fin Picard devenant Locutus. C'était une sorte de... comment on appelle ça, là? Quand on fait voir le fusil de Chekhov, là, à chaque fois, là. Ça porte un nom anglais.
C'est le fusil de Chekhov.
Ouais, mais ça porte un nom anglais. Bref, fusil de Chekhov... voilà, exactement. Ça devait amener ça. Il y avait plein d'autres façons d'amener les choses, mais ils étaient pressés par le temps, ils savaient pas s'il allait avoir une quatrième saison, et il fallait tenter le tout pour le tout. Sachant que faire un cliffhanger dans Star Trek, ça s'était pas fait depuis La Ménagerie. Donc un épisode de TOS. Voilà. Donc ils étaient sur un truc où ils n'étaient pas sûrs d'être suivis. Ils n'étaient même pas sûrs que l'épisode soit diffusé tel quel.
Ouais, ils ont fait avec les moyens du bord. Après, quand tu vois ce qu'ils arrivent à faire, c'est impressionnant. Hein. Enfin, je veux dire, moi j'adore le design du cube Borg. Je le trouve trop stylé.
Mais tout est intéressant dans ce design-là, en plus, sans s'en rendre compte. Tu vas te faire une forme géométrique simple.
Ouais.
C'est-à-dire que tous les autres vaisseaux sont vachement élaborés.
C'est une scène qui me fait beaucoup rire quand il tombe sur les Borg, et alors il voit de loin, il faut voir, il y a une forme capitaine, il y a une forme au truc, et tu vois au loin t'as un cube, et puis ils font fait un zoom, t'as un cube qui est en gros, il fait oh, merde, c'est des Borg, et il se retourne, il fait merde. Tu l'as vu de loin que c'était un cube. Ça m'a fait rire. C'était même pas une tâche quand tu comprends que c'est un cube.
Non, mais en plus, il y a plein d'incohérences. Le cube, il arrive. Un rayon tracteur sur le Voyager, sur l'Enterprise. Ok. Et 20 minutes après, il va poutrer toute la galaxie. Enfin, il aurait pu poutrer d'entrée de jeu. En plus. Bah, je sais pas, il aurait pu.
Picard pour pouvoir poutrer. D'ailleurs, ça, je suis désolé, mais c'est un truc. Hein, le fait de choper Picard, ils le font dans KTL. Tu chopes un capitaine de vaisseau, t'as tous les codes. Tu sais, c'est les codes de Sion, quoi.
Oui.
Dans Matrix. Les mecs, désolé, mais changez votre mot de passe, quoi. Enfin, t'as chopé Picard. Ça, c'est forcément, t'y penses pas à l'époque. Mais le fait de choper... Ce qu'il y a, c'est que dans l'histoire, le fait de choper Picard, c'est narrativement intéressant, parce qu'en fait, ils se battent contre un ennemi qui les connaît. Et en plus, c'est le meilleur stratège de la galaxie, donc t'es encore plus coincé.
On nous explique que plus tard que c'est le meilleur stratège de la galaxie. À ce moment-là de l'histoire, on le sait pas. Hein.
Ouais, mais quand ils prennent Picard, ils prennent l'un des meilleurs de la galaxie parce que c'est le meilleur de la série que t'as vu. Tu vois ce que je veux dire? T'as quand même 3 saisons où le mec il a réglé plein de problèmes au calme et en gueulant sur tout le monde. Donc à ce moment-là, ils prennent le personnage le plus puissant. Donc en fait, ils ont pris Sangoku et ils l'ont rendu méchant et faut se battre contre lui. C'est ça qu'ils font. Le truc qu'il y a, c'est que pareil, ça doit créer. C'est ça, c'est que en fait, ça impose des lignes de dialogue au minimum. Tu peux pas faire comme si ça n'existait pas. Donc, tiens, je donne un exemple. Dans l'immonde Star Wars 9, parce que dans Star Wars 8, il y a la stratégie où il fonce en vitesse lumière dans le vaisseau pour l'exploser. On a appelé dans le Star Wars 9, on lui dit tiens, on pourrait faire la manœuvre Odo. Et le mec dit non, on peut pas parce que ça demande trop d'énergie, on n'a pas assez de vaisseau pour pouvoir se permettre de faire péter des trucs comme ça. Mine de rien, cette petite phrase-là est super intéressante et hyper importante parce qu'elle t'implique, ça te raconte une histoire en fait. Ça te dit, ben, pas depuis ce moment-là, et les gens ils ont fait tiens, on pourrait le faire, et ils se sont posé des questions, on a appelé ça la manœuvre Odo, et une histoire s'est créée. Et c'est ce qui aurait dû se passer. C'est ce qui aurait dû se passer, c'est genre. Mais bon, est-ce qu'à l'époque, on avait vraiment cette conscience informatique? Faut pas oublier qu'on a ces consciences informatiques des années 80. Hein, donc, nous, on a maintenant. Et pourtant, moi, j'aimais bien le fait qu'ils les mettent en veille. Hein. Enfin, tu vois, je trouvais ça cool, tu vois, en fait, qu'ils disent. Mais en fait, on n'a qu'à les mettre en veille. C'est l'ordre le plus simple. Je trouve ça. Moi, je trouve que c'est une super idée. La seule chose que j'ai pas aimé, c'est qu'apparemment, les Borg, quand ils se mettent en veille, ils s'autodétruisent. C'est un
Ils
peu
sont
con.
plus vulnérables.
Voilà, et même qu'ils ne soient plus vulnérables, je trouve ça d'accord. Je suis d'accord. Mais qu'en fait, par exemple, tu vois, ils auraient dû pouvoir récupérer le vaisseau et le désosser et l'analyser. Tu vois? Et pas juste, ah, il a déjà réussi à reboot, tu sais, il a fait un redémarrage du système et c'est réglé. Et tu sens qu'à l'époque, comme tu dis, ils n'avaient pas conscience de ce qu'ils faisaient. Et donc, ils n'avaient pas conscience de ce que ça impliquait, narrativement. De dire, par exemple, les Borg, genre, j'invente, hein, qu'en fait, mine de rien, ça leur prend énormément d'énergie. Et donc, en fait, quand ils rebootent, quand ils redémarrent, et quand ils se mettent en mode veille, c'est vraiment parce qu'en fait, on s'en rend pas compte, mais ils puisent énormément, énormément, énormément. Et ben, en fait, ça a laissé le temps à toute la galaxie, à toute la fédération de désosser complètement le matos, désosser les Borg, et on essaye de piger et créer quelque chose pour pouvoir les mettre, pour pouvoir se mettre en 1v1 et pouvoir tenir un petit peu, comme ils font avec le défiant en fait. Et pas juste, bon, bah tant pis, on a réussi à s'échapper, quoi. C'est un peu
Bah,
dommage. C'est vraiment dommage.
c'est un peu le synopsis de Star Trek Picard saison 1, hein, avec ce cube Borg retrouvé.
Ok. Ouais, mais
Voilà.
c'est trop tard.
Ouais.
À ce moment-là, c'est trop tard.
On est d'accord.
Voilà, il faut faire ça avec un nouvel ennemi. Il faut
D'où
faire
ma
ça avec un nouvel ennemi.
question, est-ce que l'épisode est pas survendu? Parce qu'on a quand même eu des sorties en DVD double épisode. Il y a eu des sorties cinéma. Et je
Wow.
trouve que l'épisode, il est pas. C'est pas l'un des meilleurs de la série. Alors, il est classé dans les 10 meilleurs de TNG.
Alors, pour moi, je trouve que. En fait, ce qu'il y a, c'est que c'est pas un bon épisode, mais je comprends pourquoi il reste là. Il marque. Parce que s'il impose tout ce que toi, t'as, tout ce que tu m'as expliqué, beaucoup d'épisodes, beaucoup d'arcs narratifs reviennent de cet épisode, viennent de cet épisode-là, qu'on va trouver dans DS9, qu'on va trouver dans Voyager. Je comprends qu'il est marqué à ce point. On dit que c'est l'un des meilleurs épisodes de Star Trek. Oui, puisqu'il a eu, sans le vouloir, le génie de d'amener quelque chose, d'amener des pistes qu'il ne contrôlait même pas. Scénaristiquement, il est bancal et en tant que tel, si tu le prends comme ça, tu te fais, ouais, il est un peu nul, quoi. Mais pour moi, il est nul. Il n'est pas nul, mais comment dire? Son défaut vient du fait que, pour moi, il est en avance sur son temps. C'est-à-dire que, genre, le meilleur exemple, c'est quand il, première fois qu'on me parle avec la Force, quand les Borg attaquent, et t'as l'ordi qui fait une petite roulade sous un. Tu sais, il fait une Shatner, quoi. Il fait une petite roulade sous le truc parce qu'il doit quitter la salle de... Tu sais, il dit, allez à tout le monde, allez, cassez-vous, cassez-vous. Tu vois? Et puis t'as la salle des machines qui se ferme, il fait sa petite roulade, on fait, ah, cette scène-là, ça aurait dû être la scène d'ouverture dans KTL. Par rapport à ce que ça implique. C'est-à-dire, il y a un trou. Tu vois, ce moment où t'as un trou dans la coque et t'as des gars qui sont partis dans l'espace, t'as plus de son. Il aurait dû avoir ça. Mais tu es 30 ans avant. Forcément, ils y pensent pas. Et ils n'ont pas le moyen, ils n'ont pas les budgets, ils n'ont pas la technique et ils n'ont pas le temps. Tu vois ce que je veux dire? Moi, c'est
Oui.
ça. C'est pour ça qu'il est pas ouf. Et que forcément, mais je pense surtout que c'est parce que j'ai un peu de tendresse par l'analyse pour cet épisode. Parce que tu vois les promesses qu'il était, quoi. Et du coup, t'arrives, je pense que les gens, en plus qu'il faut absolument que les gens. Alors, c'est comme vous tous avec Picard, là. Ah non, il est trop bien, machin. Ça fait partie des grandes conventions, quoi. C'est Picard avant Kirk, mais TOS avant TNG, parce que. Enfin, tu vois, des trucs comme ça.
Oui, de toute façon, hein, mon chat est tricky, l'avant-dernière série est toujours meilleure que la dernière série.
Voilà, alors que
Donc.
Strange New World. Moi, j'attends la saison 2.
Ah, mais
Alors,
pareil.
je serai critique, moi, à ce moment-là, avec la saison 2.
Non, mais pour revenir à ça, la question de l'épisode d'aujourd'hui est un peu dure. Effectivement, il a marqué son temps, il a marqué son époque. On le regarde avec nos yeux d'aujourd'hui, bah forcément, on va le critiquer durement. Si on le regardait avec les yeux d'hier, ouais, c'est une grosse claque pour l'époque. L'épisode a gagné pas mal de prix. Bref, il fallait. Et c'était l'épisode qui marque aussi un renouveau de la saga, c'est-à-dire cette entrée, comme je le disais au début, dans la maturité. Fini le temps de. Bon, même s'ils nous ont attaqué, c'est qu'on s'est peut-être pas bien compris, donc on va trouver le bon terrain d'entente. Là, tu ne discutes pas avec les Borg, tu ramasses et tu fermes ta gueule. Et ça devient intéressant. Exploiter Stargate tout au long de. Pour revenir là-dessus, on en parlait tout à l'heure, mais Stargate va exploiter cet arc narratif, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on fait face à quelque chose de toute façon plus puissant que nous? Nous, on est des fourmis, eux, c'est des dieux. Qu'est-ce qu'on fait pour gagner?
Parle des Goa'uld.
Voilà, par exemple, pour les Goa'uld. Et à chaque fois, il y avait un Goa'uld plus balèze et plus dangereux qui venait les remplacer. À tel point que l'arc du méchant Goa'uld qui venait remplacer le dernier, qui était plus méchant et plus balèze et qu'on n'avait jamais entendu parler sur le fond, étant arrivé à épuisement. Carrément des dieux trans universels quoi tu vois voilà des vrais dieux omnipotents quoi
Mais d'ailleurs,
donc
c'est ce que j'avais aimé dans Atlantis. C'est les Krill. Non, pas les Krill. Je sais pas pourquoi.
c'est les ah ça je l'ai plus le nom les
Warth.
Wraiths les Wraiths
Wraiths.
voilà.
Qui étaient, du coup, qui étaient plus des dieux, mais qui étaient vraiment une civilisation où, tu sais, ils avaient leur truc pour se nourrir par-ci, par-là. Il y avait une vraie approche qui était assez intéressante. C'est juste qu'en fait, c'est intéressant au début, puis. Deux saisons plus tard, tu te fais chier à les regarder, où finalement bah, ils ont tous des guns, finalement bah, il y avait les Wraiths qui étaient pas loin.
Bah, ce qui était intéressant dans Atlantis, c'est que les Wraiths, on apprenait que c'était eux qui avaient vaincu les anciens. C'est-à-dire que les anciens avaient fui. Et donc là, ça devenait intéressant, parce que tu disais, ah putain, qu'est-ce qui a vaincu les anciens, ça devient intéressant. Et qui aurait pu vaincre les Goa'uld s'ils savaient qu'ils existaient, quoi. Pareil, on apprend pas mal de choses dans Atlantis par rapport aux Asgard de première génération, qui étaient tout sauf pacifistes. Donc c'est intéressant aussi, mais oui, voilà, on en revient toujours à la même chose de soit trop en avance, soit trop tard. Et là, là-dessus, le meilleur des deux mondes, bah, il est génial parce que c'est un épisode pivot. C'est l'épisode qu'on recommande pour tous ceux qui veulent commencer les séries sur Amazon Picard. Enfin voilà quoi. C'est l'épisode qu'on recommande pour ceux qui veulent commencer DS9. Parce que sinon tu comprends pas l'amertume dans la première saison de Benjamin Sisko. Et puis pareil, tu comprends pas. Il y a plusieurs arcs dans l'univers miroir dans DS9. Et avec notamment la femme qui est pas morte dans l'univers miroir de Sisko. Donc voilà, tu peux nous. Ouais,
voilà. Tout est lié, beaucoup de choses sont liées à cet épisode-là.
Exactement.
Et à nouveau, les défauts de l'épisode, fondamentalement, tiennent principalement de ses conditions de tournage et de son époque. Enfin, pour moi, ça, c'est des choses sur lesquelles tu peux pas trop taper dessus.
Bah oui.
Après, le fait qu'ils aient pas continué des choses aussi graves, mais bon, ça, c'est un peu dommage. C'est aussi importante. C'était cool, hein, l'épisode où il retourne en France. Mais c'est d'ailleurs en retapant les. Je regarde ça sur Netflix, hein, donc en scrollant, j'ai revu Les vacances de Jean-Luc Picard.
Sur Isa.
Ouais, ben, je me suis rendu compte d'un truc sur Picard. Picard est 10 fois plus un homme à femme que
Que
Kirk.
Kirk.
10 fois plus. Parce qu'en fait, Kirk, c'est. Il va draguer, il va dragouiller, ou. C'est souvent des anciennes conquêtes. Picard, c'est des meufs veulent de lui, quoi. Il est là avec son crâne d'œuf, ses sourcils froncés, et apparemment, c'est le sex appeal intergalactique. Et c'est juste qu'en fait, il veut pas. Mais si tu regardes bien Picard, à chaque fois, dès qu'il croise des meufs, il éclabousse tout le monde de sa prestance de capitaine. Et on te fait clairement comprendre, genre la mère de trucs, elle veut de lui. Quand il va en vacances, il est avec une meuf. On te fait clairement comprendre que s'il voulait, bah, il pouvait. Et en fait, j'ai remarqué qu'il y a souvent un truc comme ça avec lui où bah, Picard, c'est l'homme. C'est juste qu'en fait, il va pas jusqu'au bout. Ou Kirk, c'est un cutard, tu vois. Mais.
Et puis, femme d'exception, c'est-à-dire que Viriane, là, qui trouve sur Aïssa, c'est une personne. S9, c'est souvent des personnages qu'on retrouve qui. Bon, ben oui,
Ah,
Picard là-dessus.
il a sa ferme, hein, il a son petit terrain de chasse. Mais ça me fait marrer parce que du coup, le contraste, parce que quand Kirk il arrive, bah, sur une planète, il fait pipi partout pour attirer les femelles. Enfin, tu vois, c'est limite ça, quoi. Alors que Picard, il a trop l'attitude du Ah, je ne m'attendais pas à ce que ça arrive. Et en vrai, tu fais mec, ça fait quand même la 5e planète, là. Assume. C'est quand même le bon papa qui peut se faire. S'il le voulait, il pourrait, tu vois. Donc voilà, c'est un truc qui me fait quand même marrer. Mais donc voilà, bah ouais, donc moi, je sais pas si c'est encore des choses à dire. Attends, je regarde, j'avais écrit deux, trois petites questions.
Vas-y, vas-y.
Bah, on a répondu, moi, mes deux questions, c'était pourquoi est-ce que ça a tant marqué et tu as répondu? Est-ce que c'est toujours aussi bien après tant d'années? On a répondu, hein, oui, parce que pour ce que ça représente, en tant que tel, ça souffre surtout des défauts de son époque. Et de l'occasion manquée. Moi, c'est un peu ça que je retiens. Il y aurait eu une suite à ça, t'aurais fait, waouh, c'est trop bien. Mais c'est parce qu'il n'y en a pas. Une suite directe dans TNG que tu te fais, bon, bah tant pis. Et que la réalisation du deuxième épisode, en fait, est un peu aux fraises, mais au final, ça fonctionne encore. Parce que c'est juste qu'ils se concentrent beaucoup sur le combat, mais c'est un peu comme Le Seigneur des Anneaux 3, tu vois. Où tout le film, c'est la bataille du Gondor. De Minas Tirith. Et est-ce que c'en est moins bien écrit pour autant? Moi je dis non, mais même si le premier film est le top et le meilleur. Mais tu vois, donc c'est logique en fait, c'est la conclusion. Ça fait quand même trois films qu'on te tease, trois films, trois bouquins, six bouquins en anglais, qu'on te tease qu'à la fin il y aura une grosse bagarre, bah, le dernier tome c'est la bagarre quoi. Bah là c'est pareil. C'est le deuxième épisode, c'est faut à tout prix aller récupérer Picard. Et faut réussir à trouver un moyen pour lutter contre les Borg, quoi.
Bon, après, pour revenir, le vrai défaut de cet épisode, c'est que finalement, il faut le voir avec First Contact à la suite. Et First Contact, je trouve qu'en plus, il va pas assez loin dans ce trauma. Il
Ah
parle
ouais,
que
non,
de
mais First
vengeance
Contact,
et il va pas assez loin dans ce trauma, alors que dans Next Generation, on voit que Picard a subi des traumas. Et que,
Dans
ben.
Génération, c'est avec son fils, son clone,
Non, ça
avec
c'est dans
Nimuit.
Nemesis. Dans Génération, c'est avec le ruban Nexus qui permet de vivre dans d'autres réalités.
Ah oui.
Voilà.
Ah
Et.
oui, donc avec Kirk.
Exactement. Mais voilà. Donc, moi, pour répondre à la question, je pense aussi que c'est un bon épisode. Il n'y a pas de néanmoins, c'est un bon épisode. Si vraiment faut l'apprécier, il faut se manger les deux saisons d'un coup pour comprendre l'importance et voir le changement. Ouais. C'est-à-dire qu'après, il y aura un changement dans les autres épisodes. Tu sens qu'il y a une maturité et tu sens que Star Trek, c'est parti pour être dans les années 2000 et 90 avec toutes les autres séries qui vont avoir lieu derrière, quoi.
Et c'est d'ailleurs, moi, c'est dans la saison 4, à partir de la moitié de la saison 4, où j'ai vraiment apprécié TNG. Je me suis dit, mais merde, il y a de plus en plus d'épisodes où je suis content, j'aimerais bien voir l'épisode suivant. Comme tu dis, il faut 4 saisons pour apprécier Star Trek. Tu le sens, en fait, qu'il y a de plus en plus d'épisodes qui sont bien mieux réfléchis, bien mieux construits, qu'il y a des dynamiques de groupe qui se mettent en place, des dynamiques, des binômes. Hein. Je crois qu'il y a un peu souvent la forge Worf. C'est là que tu commences à avoir ça. Ouais, non, franchement, c'est un vrai plaisir. Il y avait cet épisode où ils doivent réparer un truc et la psy, elle perd ses pouvoirs de télépathe, empathique.
Ouais.
Et du coup, de télé-empathique, et du coup, mais c'est un petit épisode comme ça, mais il est vachement cool. Et donc voilà, bon, franchement, ouais, j'ai bien aimé. Et mon chat qui chouine. Je sais pas si on l'a entendu. Mais non. Donc voilà. Ben écoute, ça fait une petite heure 20.
C'est pas mal.
De podcast, je trouve ça pas mal. Il n'y a pas besoin d'aller plus loin.
On a bien répondu à la question. La question est vite répondue, comme dirait l'autre.
La question fut répondue.
Voilà.
Du coup, est-ce que toi, il y a un thème que tu voudrais aborder en tête pour la fois prochaine?
Ouais. Pourquoi est-ce que Voyager cliffe autant?
Ça implique que je me fasse Voyager.
Ah, tu peux regarder les premiers épisodes.
Ah, c'est vrai, je les ai déjà vus, mais je pourrais me les refaire.
Ouais. Il y a un thème qui... Voilà.
Je pourrais proposer autre chose. Parce que Voyager, j'ai commencé à mater, et j'avais bien aimé. Mais je pourrais commencer DS9.
Ah.
Et comme ça, on a... Parce que j'ai toujours pas regardé. À part les épisodes qui parlaient de la section 31. Et du coup, c'est marrant, parce que je trouvais que Sisko était un capitaine. Parce qu'on est beaucoup plus loin dans les saisons, donc il assumait son statut de capitaine. Et donc, on pourrait parler de DS9, de l'introduction de DS9. Je pourrais me faire le premier épisode. Et parler un petit peu de ce que ça représente. Surtout qu'en ce moment, je suis aussi en train de regarder Babylon 5. Donc,
Comparer les deux.
Ouais, je pourrais dire, ah ouais, non, mais lui, c'est trop Mollary.
Eh ben, on peut se faire le pilote de Babylon 5 versus le pilote de DS9.
Ouais. D'accord, on fait ça. Les deux. Ouais, vas-y. Donc, Babylon 5 vs DS9. Ce sera pour dans deux semaines et demie.
Oui, à peu près.
Voilà, on prend notre temps. Et donc, voilà.
Et on y va.
J'espère que ça vous a plu.
Ben oui.
J'espère que vous en écouterez d'autres. Je sais même pas s'il y avait des gens dans le chat aujourd'hui, mais de toute façon, on s'en fout. Ce sera surtout pour des podcasts pour la suite.
Oui. Puis,
plaisir de la conversation, hein.
Oui, bien entendu.
Ouais.
On va mettre ça en place très bientôt.
Voilà.
Allez. Merci pour tout. Bonne soirée.
Bisous. Ciao.